retour de, certains disent, l'état stratège d'une logique de re-régulation nécessaire, sans doute aussi au niveau international. C'est ça aujourd'hui l'enjeu par rapport à tous les défis qu'on a évoqués, notamment le climat, l'environnement.
Il faut faire une différence entre régulation et participation. Je ne suis pas convaincu qu'une participation de l'État comme joueur du marché, ça, je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui va résoudre beaucoup de problèmes.
Donc, il ne faut pas nationaliser, par exemple.
Il ne faut pas nationaliser, mais mieux réguler. D'ailleurs, on avait tendance dans le passé de dire le moins de régulation qu'il y a, le mieux que c'est. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a plein de secteurs dans lesquels on voit que la régulation, en fait, a mené à plus d'innovation. Le fait que dans les voitures électriques, par exemple, les États-Unis ont un avantage par rapport aux fabricants européens, c'est parce que, par exemple, en Californie, il y avait des régulations très, très strictes par rapport aux émissions des voitures. Et donc, ça veut dire que comme pouvoir public, on va jouer beaucoup plus un rôle de régulateur très strict, le plus regardant vers le futur que possible, avec des possibilités d'intervention beaucoup plus fortes que ce qu'on avait connu jusque maintenant. Oui.
L'enjeu, par exemple, de taxer le carbone, parce que si on reste dans une logique de marché, on sait que c'est un des outils que l'on a si on veut faire avancer les acteurs économiques vers une économie plus verte. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, vous êtes prêt à envisager? Est-ce que l'idée de donner un prix au carbone, c'est quelque chose que vous envisagez en tant que libéral?
Oui, c'est une manière efficace de le faire, pourvu que ça remplace les autres niveaux de taxation. Parce qu'on a déjà des systèmes qui, en fait, sont un peu des déductions de systèmes de carbone, de taxation de carbone. Les accises, les TVA, etc., le sont déjà. Et donc, un système de taxation de carbone au niveau européen, clairement, je suis pour, pourvu que ça remplace les autres systèmes d'imposition qui existent déjà. Aller dire que c'est une nouvelle couche en plus, je pense que dans ce moment-ci, on n'en a pas besoin.
Mmh. Un mot sur un secteur quand même où l'État pourrait rejouer un rôle de participation, c'est le nucléaire. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, puisqu'on sait que dans les négociations avec Engie, l'enjeu pour prolonger deux réacteurs pourrait être l'idée que l'État investisse aux côtés d'Engie pour devenir gestionnaire de ces deux réacteurs qu'on pourrait prolonger. On en est où là-dedans? Quel est le pourcentage de chances que vous donnez, vous, Alexandre de Croo, de parvenir à prolonger effectivement deux réacteurs nucléaires en Belgique?
Il y a une décision en Belgique qui a été prise d'avoir la volonté de prolonger deux réacteurs pendant 10 ans. C'est d'ailleurs une décision que beaucoup d'acteurs européens disent, tiens, c'est intéressant ce que la Belgique a fait. D'autres pays sont toujours dans la discussion. Nous, on a déjà pris cette discussion.
Vous avez une décision d'avoir la volonté. Les mots ont de l'importance.
Ah, parce que
ça veut bien dire que vous ne pouvez pas décider vraiment qu'il soit prolongé.
Ben non, parce qu'elle
nous appartient. Vous trouvez l'accord avec Engie.
Oui, parce qu'elle ne nous appartient pas. Moi, je veux bien décider sur quelque chose qui ne m'appartient pas, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, et de l'autre côté de la table, chez Engie, je vois aussi une volonté de le faire. Alors, vous savez, une activité nucléaire, ce n'est pas évident. Vous avez dit tout à l'heure, la volonté d'être gestionnaire, les mots sont importants. On a la volonté de participer. On ne sera pas un opérateur. L'opérateur nucléaire, c'est clairement Engie qui le sera. Mais nous, la possibilité, le fait de participer à cela, oui, ça nous donne la possibilité de ce qu'on appellerait en anglais « take back control », hein, c'est de reprendre le contrôle sur une activité énergétique qui est quand même très très importante dans notre pays. On a beaucoup d'expertise dans le domaine, on a aussi décidé d'investir dans la recherche dans le nucléaire du futur, où là, ben voilà, c'est des modèles qui sont sur papier, hein. Certains disent, ben voilà, c'est des réacteurs PowerPoint, ça existe sur un écran, mais dans la réalité, ça n'existe pas encore. On ira vers un monde énergétique avec beaucoup d'éléments différents. Et quand on voit en Europe, ben dans beaucoup de pays, l'activité énergétique est certainement nucléaire, est une où, en général, le public est quand même impliqué. Ça nous donne la possibilité de mieux contrôler la manière dont ça se fait, ça nous donne aussi naturellement une possibilité des bénéfices d'utiliser d'une manière plus sociétale les bénéfices qui en viennent et de mieux adapter notre système énergétique pour le futur.
On sait que c'est une énergie particulièrement rentable pour le moment parce qu'elle est amortie, qu'elle coûte peu cher par rapport à un gaz qui lui coûte très très cher pour le moment. Mais donc pour répondre à ma question de départ, c'était quel pourcentage de chance? On est à quoi? À 95% d'un accord avec Engie ou
ça,
on n'en est pas
savez, là dans ce genre de prévision, pour moi, il y a, quand on dit quel est le pourcentage de chance, pour moi, il y a trois possibilités. Ou bien c'est zéro, ou bien c'est 100, ou bien c'est entre les deux. Quand on dit c'est zéro, on n'y croit pas. Quand on dit c'est 100%, on est sûr que ce sera. C'est entre les deux. Si maintenant je dis 10 ou je dis 90, finalement, ça montre que je n'ai pas encore la certitude absolue. Moi, je constate qu'autour de la table, ça avance plutôt dans la bonne direction. C'est des discussions qui sont complexes. Ça, c'est clair. Moi, je sens qu'il y a une volonté d'aboutir. Mais voilà, je serai sûr au moment où c'est signé et au moment où cette prolongation se fera.
Quitte à partager les bénéfices d'un côté, ça vous l'avez dit, mais aussi la charge du démantèlement futur, des déchets, ça la Belgique, elle est prête à discuter de ça aujourd'hui.
Il y a quand même une différence entre le démantèlement et les déchets. Le démantèlement, c'est clair, c'est pour l'opérateur. Et c'est la responsabilité
d'Engie.
Ça, c'est non négociable. Toute la question, c'est quelle clarté est-ce que nous, comme Belgique, on donne par rapport à la gestion des déchets? Et ça, c'est une question qui est tout à fait valable. La position a toujours été, c'est vous qui devez provisionner pour ça, c'est vous qui devez le gérer. Je pense que c'est logique. Mais la question du côté de l'opérateur qui dit, OK, c'est très bien, on accepte cette responsabilité, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous allez faire le stockage de ces déchets? Je trouve que c'est une question tout à fait valable et c'est une question autour de laquelle beaucoup de gouvernements dans le passé ont fait un grand cercle autour, se sont jamais exprimés. Je pense que ce gouvernement-ci doit s'exprimer par rapport à ça et doit donner de la clarté à l'opérateur.
Donc d'ici la fin de la législature, on saura ce qu'il en est de la gestion à long terme des déchets, que ce soit pour le cas de ces deux réacteurs-ci, mais de manière générale pour la Belgique.
On va faire de la manière générale, parce que de toute façon, il y a des réacteurs qui vont arrêter. D'ailleurs, il y en a déjà un qui est arrêté. Bon, le démantèlement, ça prend du temps, mais la gestion des déchets, oui, il faut être clair par rapport à ça. Et il faut le faire dans les normes de sécurité qui sont celles qui sont nécessaires.
Dernier élément là-dessus, pour vous, c'est deux réacteurs maximum? Ou bien vous avez toujours dans un coin de la tête l'idée qu'on pourrait peut-être en maintenir plus que deux? Certains du côté du MR parlent de quatre, par exemple, par rapport à l'enjeu de la transition.
Mais donc deux, cette décision a été prise. Et puis, on s'est dit dans le gouvernement qu'on fera tout pour minimiser au maximum le risque qu'à un moment donné, il y aura une pénurie. Et là, la situation a changé, pas forcément en Belgique. On voit que la situation a changé, par exemple, en France, où la fiabilité des réacteurs, quand même, les mois précédents, était assez faible. Et aujourd'hui, c'est la Belgique qui garde la France dans une zone de sécurité, de pas de blackout. C'est la Belgique qui garde l'Allemagne sur ses pieds par rapport au approvisionnement de gaz. Donc la situation a pas mal changé, mais il faut le faire dans le bon ordre. On demandera d'abord aux gestionnaires de réseau, faites-nous une analyse pour minimiser au maximum le risque de pénurie, tenant compte d'une nouvelle situation dans les autres pays limitrophes. Regardez alors quelles sont les options, et puis on regardera quelle est l'option à faire. Mais il ne faut pas inverser. Il faut d'abord faire l'analyse, puis regarder les options, et puis décider.
Mais pas dans ça reste une option, mais...
On a dit qu'on le ferait sans tabou. Mais sans tabou, ça veut dire qu'on regarde toutes les options. Renouvelables, gaz et nucléaire n'est pas exclu.